France Inter.
Salut Fred, je voulais te remercier, toi et ton équipe, pour toutes ces émissions depuis des années. Je donne juste l'info que les podcasts y remontent bien jusqu'à 2017. Et ça, c'est chouette parce que en attendant que tu fasses autre chose, on pourra toujours écouter tes podcasts. Les intitulés, ils sont toujours d'actualité. Même Princesse Sarah, pas parce que c'est de la culture et la culture, c'est intemporel. Et puis, juste pour info, pour France Inter, écouter des gens parler de ce qu'ils aiment et donner envie de partager, c'est bien. Rire de la même chose, ça fait du lien. Pleurer de la même chose, c'est faire du lien aussi. Et puis, si ça intéresse pas France Inter, eh ben, tant pis pour elle. Gros bisous.
Bonjour Frédéric, c'est Mathias. Je voulais te dire que je te hais, Frédéric. J'ai 3 enfants, bientôt 4, une grande maison, un travail prenant. Malheureusement, sur le chemin du travail, j'ai pu écouter ton émission sur Clair Obscur Expédition 33. Et voilà, ça fait 2 semaines que je suis tombé dedans. Le jeu est magnifique, comme tu l'as si bien décrit. J'y passe beaucoup trop de temps, j'y passe mes nuits. Voilà, j'espère que tu es fier de toi, tu seras responsable d'un divorce et de 3 enfants placés. Merci pour tout, à bientôt, ciao.
Salut Fred, salut Blockbuster, c'est Andy de Montpellier. Un message sans aucune originalité pour vous dire bravo et merci pour toutes ces années, ces émissions intéressantes, surprenantes, passionnantes. Également, les éditos, notamment un sur lequel je voudrais revenir, où tu traitais de la question, ou plutôt de l'idée qu'on ne peut plus rien dire. J'ai beaucoup aimé l'ouverture d'esprit, la façon de prendre du recul, de retourner le sujet. Un édito qui fait écho d'ailleurs un peu à l'émission d'hier sur Andorre. Bref, j'attends impatiemment de savoir où on te retrouvera plus tard. Une jolie page qui se tourne, on s'est tous régalés. On attend la suite. Maintenant, je te laisse, il faut que j'aille acheter une brouette de Décifas pour me préparer à ma partie de Warhammer. Salut.
To be or not to be, not to be.
On va faire un jeu. Citez-moi 10 comédiens ou comédiennes noirs français. Omar Sy, Jean-Pascal Zadi, Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Firmin Richard, Ahmed Silla, Fabrice Eboué, Thomas Ndjijol, Fadili Camara, Farid. Ok, c'est bien, c'était facile. Maintenant, citez-moi 10 comédiens ou comédiennes noirs qui ne viennent pas du one-man show ou du stand-up. Ah, et là, pouf, ça devient d'un coup beaucoup plus difficile. Alors évidemment, vous vous en doutez, il y a une raison à cela. Qu'est-ce qui explique qu'en France, l'humour soit la principale porte d'entrée des comédiens et comédiennes issus de la diversité? Eh ben, tout commence avec la formation théâtrale. Déjà, devenir comédien en France, c'est un truc qui ne rapporte pas et qui coûte une blinde. Si tu fais pas partie du tout petit nombre d'élus qui profitent de la classe libre du cours Florent ou du conservatoire, eh ben, il va falloir financer tes cours à hauteur de 200 à 400 euros par mois. Alors autant me dire que l'égalité des chances, à ce stade, elle s'est pris un coup de pelle et elle mange avec une paille. Hein. Ensuite, il y a des cultures où avouer à ses parents qu'on veut devenir comédien revient à dire qu'on a demandé travailleur du sexe à Parcoursup. Et puis après, il y a les rôles qu'on va te proposer. Moi par exemple, en tant que métisse, j'ai joué Abad dans Key West de Bernard Amary Coltès, un grand noir qui parle pas. Albouri dans Combat de nègres et de chiens du même auteur, un grand noir qui parle pas. J'ai joué dans La putain respectueuse de Jean-Paul Sartre, un personnage qui s'appelait l'homme noir. Et avec à chaque fois des metteurs en scène passionnés qui me criaient dessus en me disant « Frédéric, mais enfin, parle-nous avec ta voix de noir !» Alors vu que je suis lorrain, moi je me disais bah, « Peut-être qu'ils veulent que je parle avec l'accent. » Donc j'étais là, j'ai dit « Comment que c'est gros? Le Maxime, il est trop narreux pour parler à un Renoir !» Et ça le faisait pas non plus. Donc au bout d'un moment, pour avoir du texte, tu t'écris des choses à dire dans ta propre voix. Et pourquoi l'humour, me direz-vous? Parce que quand je repense à tout ça, bah vaut mieux en rire.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Toutes les personnes présentes dans ce tribunal se posent des questions sur les penchants ou les préférences sexuelles des uns et des autres, peu importe le terme. Qui fait quoi et à qui et comment ils font ça? Ils regardent Andrew Beckett et ils y pensent. Ils regardent M. Wheeler, Mlle Cunin, même vous, M. le Président. Et ils se posent la question. Même moi? Ben faites-moi confiance, je sais très bien que quand ils me regardent, ça leur trotte dans la tête. Alors, mettons tout ça sur la table. Sortons de notre placard. Parce que l'enjeu de ce procès, ce n'est pas uniquement le sida. Alors parlons du véritable enjeu de ce procès. La haine que ressent monsieur tout le monde, notre mépris, notre peur des homosexuels. Et comment ce climat de haine et de peur a pu entraîner le renvoi d'un homosexuel en particulier
mon client, Andrew Beckett. Veuillez vous asseoir, Monsieur Miller.
Bien joué.
Dans ce tribunal, maître, la justice est aveugle en matière de race, de croyance, de couleur, de religion et de préférence sexuelle.
Avec tout le respect dû à la Cour, nous ne vivons pas dans ce tribunal, Monsieur le Président.
Il est l'acteur que la classe appelle au secours quand elle a besoin d'être remplacée. Philadelphie, Malcolm X, Training Day, Man on Fire, Hurricane Carter. Il est devenu le porte-drapeau des acteurs afro-américains, mais aussi celui d'une élégance et de l'intelligence du jeu à Hollywood. Alors, on le sait moins, mais il est aussi le parrain de toute une nouvelle génération d'acteurs, parmi lesquels Chadwick Boseman, Glenn Powell ou encore Austin Butler. Denzel, c'est le GOAT, comme on dit, le boss. Tout simplement, et pour en parler, je suis entouré par Marie Casabonne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisée ciné-série, créatrice de l'émission Monster Squad dans Capture Mag, autrice du livre dans les bureaux de The Office, L'humain derrière l'humour, aux éditions Ferd.
C'est ça.
Avec nous de retour, et on est ravis, Renaud Besbourdier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes scénariste, dramaturge et rédacteur en chef du site web Cinématrack.
Tout à fait.
Et un autre retour aussi, Jordan Mitzer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, critique cinéma, correspondant en France au Hollywood Reporter et grande classe. Vous avez grandi à New York.
Oui, mais pas dans le même quartier que Denzel Washington, mais
c'est pas grave,
pas si loin
non.
Que ça. Non.
Nous, on est en France, vous avez peut-être passé dans la même pizzeria, ça fait classe.
Could you speak louder, Captain Whitaker?
Trina Marquez did not drink the vodka. Because I drank the vodka.
Yeah. Objection!
Please be seated, sir.
Captain Whitaker misspoke.
Sir.
I drank the vodka bottles.
Can you hear me? I said object.
Please be seated, sir. This is not a courtroom.
Well, I object anyway.
I drank the vodka bottles on the plane.
Captain Whitaker, on the three nights before the accident, October 11th...
October 11th, October 12th, and 13th, and 14th, I was intoxicated. I drank all of those days. I drank in excess.
On the morning of the accident...
I was drunk. I'm drunk now. I'm drunk right now, Miss Block. Because I'm an alcoholic.
Un extrait de Flight de Robert Zemeckis sorti en 2012 où le pilote de ligne joué par Denzel Washington avoue son alcoolisme lors de son procès. On l'a laissé en VO parce que déjà c'est un blockbuster qui est consacré à Denzel Washington, donc je voulais qu'on entende sa voix. Mais aussi parce que dans une étrange mise en abîme, Denzel Washington a avoué qu'il était lui-même alcoolique. Donc là, à deux niveaux, on a le personnage qui rencontre l'acteur. Mais on va en parler plus en détail. Avant tout ça, j'aimerais poser une question à vous trois. Qu'est-ce que Denzel Washington représente dans le paysage hollywoodien actuel ? Renaud Besbourdier ?
C'est un acteur sans pareil qui a réussi à réunir un public de masse, un public blanc et un public noir. Il commence sa carrière en jouant des rôles spécifiquement pensés autour de l'expérience noire américaine et qui va, lorsqu'il va exploser, on va dire, au début du 21e siècle, réussir à attirer un public commercial et à conjuguer les deux sans jamais donner l'impression de trahir sa propre communauté, du fait de la classe et du sérieux que vous avez mentionné au départ.
Jordan ?
Mais pour moi, il représente vraiment un acteur qui vient des années 90 et qui vient de deux écoles, l'école de théâtre et l'école de cinéma. En fait, il fait toujours le deux. Il a fait beaucoup de pièces à New York, mais il a aussi fait beaucoup de films. Et il n'y a pas beaucoup d'acteurs aujourd'hui, surtout des stars de son niveau, qui arrivent à jongler, on peut dire, entre les deux. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai revu Flight, par exemple, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a un côté, je voulais dire, théâtral dans sa façon de jouer, ce qu'on ne trouve pas dans d'autres acteurs des années 90, de stars de films d'action. Mm-hmm. Ils ne font pas forcément ça. Donc je trouve que lui, en fait, quand on parle d'élégance, c'est quelque chose qui va un peu au-dessus de ce qu'on voit d'habitude à Hollywood.
Et d'ailleurs, dans cette pratique du théâtre, on le ressent dans sa manière d'aborder les monologues. Il fait des ruptures, des cassures, là où d'habitude on s'attend à avoir une grande démonstration à la Actor Studio. Attention, là, je vais jouer la colère. Et tout d'un coup, paf, il va tout casser avec une toute petite phrase où t'as l'impression qu'il est perdu avec lui-même. Et en fait, il retient l'attention en permanence. Et à regarder, quand on aime l'art dramatique, c'est quelque chose de vraiment magique à voir.
C'est un maître de monologue, mais c'est quelqu'un qui a surtout qui a joué beaucoup de pièces de Shakespeare. Shakespeare, c'est un peu le maître de monologue. Et donc, je pense qu'il a appris à la fois de Shakespeare et aussi du fait que son père était pasteur. Et je pense, lui, aujourd'hui, il est en train de peut-être devenir pasteur lui-même, ce que j'ai lu. Et donc, il y a aussi cette façon de faire des monologues, des discours qui est moins proche de ce qu'on voit dans l'acteur studio, c'est-à-dire quelque chose de très naturel. Il y a, comment dire en anglais, un big speech, un gros discours qui livre quasiment dans chaque film, en fait.
Marika Zabon.
C'est vrai, je vais pas répéter ce que vous avez dit, hein, mais c'est vrai que c'est sûrement l'acteur noir qui a le mieux réussi à Hollywood, en tout cas à son époque, parce qu'il a réussi à ne pas se cantonner à un seul genre. Il n'est pas resté, par exemple, dans la comédie, comme vous parliez, vous disiez tout à l'heure, Frédéric, dans votre intro. Il a réussi, en fait, à attirer à lui le public mainstream, c'est-à-dire blanc. Il a démarré avec des rôles, des figures historiques, donc noires, mais il a transcendé ça en jouant des hommes ordinaires, des rôles écrits pour des hommes blancs. Et comme Jordan l'a dit, on l'a vu dans des rôles shakespeariens, où en fait, la couleur de peau n'est plus une question. En fait, je pense que c'est un des rares acteurs noirs et une rare personne noire dont on ne voit plus la couleur de peau parce qu'on voit le talent de l'acteur et que du coup, la question de sa couleur de peau n'est plus une question.
Et qu'est-ce qui en fait un acteur singulier selon vous ?
Je pense que c'est déjà la longévité de sa carrière. Hein. Il a plus de 40 ans, 45 ans de carrière. On l'a vu dans tout. Moi, j'ai l'impression qu'il a toujours été là parce que je l'ai toujours vu au cinéma ou à la télé. Et c'est vrai qu'il a eu vraiment une variété de rôles, comme je disais, voilà, des rôles historiques, des rôles d'action, des petites comédies, des comédies romantiques, des choses plus diverses. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, je ne sais pas, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est une espèce d'évidence. En fait, Denzel Washington, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « je le déteste au pire ». On n'aime pas certains films, mais personne ne déteste Denzel Washington, c'est assez étonnant.
Oui, il y a une sorte de consensus qu'on pourrait retrouver aussi chez un Robert Redford ou ce type d'acteur, où voilà, il se déplace, c'est un gage de qualité.
Mais il y a aussi quelque chose qui est lié à ça, qui est une sympathie immédiate en fait, qu'on a envers le personnage. Alors, il s'est fait connaître du public américain via une série télé qui s'appelle Saint Elsewhere, où il jouait un médecin, et où il était un des seuls personnages noirs importants, donc de 82 à 86. Et après ça, en fait, il a réussi à installer une telle familiarité dans le cœur des gens, au point où le fait que sa vie privée soit si peu connue, soit si secrète pour la majorité de sa vie, que les personnages qu'il va jouer en fait, vont refléter l'image qu'on a de lui, pas en tant qu'acteur uniquement, mais aussi en tant que star. Et donc cette sympathie qu'il va avoir, cette capacité à jouer des monsieur tout le monde, tout comme il va pouvoir jouer des personnages plus grandioses tels que Malcolm X, va lui faire gagner cette sympathie. En fait, dès qu'il apparaît dans un film, et même quand il va jouer des personnages plus, moins appréciables, ce qui est assez rare, eh bien, on a envie de l'apprécier, parce que c'est Denzel, quoi. Il est là, on l'aime.
Et d'ailleurs, quand on regarde la carrière de Denzel Washington et qu'ensuite on regarde la carrière d'autres acteurs afro-américains, on a l'impression que c'est souvent lui qui a créé le modèle. Voilà, là j'ai joué le rôle d'une grande figure de l'histoire noire. Là j'ai joué un rôle d'anti-héros, etc. Par exemple, quand on regarde le parcours de Will Smith, on a l'impression qu'il a regardé tout le CV de Denzel et qu'il s'est dit « Ah, il faut faire pareil ». Jusqu'à la claque.
Je pense que s'il y a un modèle qui vient avant Denzel Washington, c'est Sidney Poitier. Oui. Et c'est clair que c'était un modèle pour Washington. Et c'était le premier acteur noir d'avoir l'Oscar de meilleur acteur avant Denzel Washington. Et un peu ce que vous avez dit sur le fait que Denzel Washington était aimé par le public blanc et noir américain, c'était Sidney Poitier, c'était le premier star hollywoodien noir d'avoir la même appréciation là-bas. Mais l'époque était très différente dans les années 60-70. C'était des films où il fallait tout le temps parler de personnages noirs, en fait. Il ne pourrait pas se fondre forcément dans le décor comme Denzel Washington a pu faire dans beaucoup de films. Parce que l'époque, c'était juste après la ségrégation. Donc les États-Unis n'étaient pas pas encore dans une période d'accepter d'avoir de stars noires à l'écran, alors que Denzel, il arrive dans les années, fin des années 80, années 90, c'est l'arrivée aussi de Spike Lee. En même temps, ils ont fait 5 films ensemble, et donc on voit effectivement que c'était une nouvelle époque aussi, quoi.
Et comment vous expliquez la réticence du public américain à cette époque à l'endroit des acteurs noirs parce que effectivement, quand tu joues un rôle, a priori, c'est une histoire. On n'est pas du tout dans les mêmes raisons racistes qu'on peut avoir avec son voisin ou ce genre de choses. Le cinéma, c'est l'évasion, c'est des personnages.
Oui, mais le cinéma, c'était Hollywood, c'était une réflexion de la société américaine. Et la société, jusqu'aux années 60, il y avait la ségrégation. Et du coup, quand on voyait des films, on voyait des noirs dans le film, c'était, ils jouaient des esclaves. De servants, des domestiques, voilà, des rôles comme ça. Il y a une super chanson de hip-hop de Public Enemy qui s'appelle Burn Hollywood Burn, et je me souviens, j'ai écouté ça très jeune, et il parle justement de tous les clichés, de tous les stéréotypes de noirs dans les films hollywoodiens jusqu'aux années 80, en gros 90, et ils disent qu'il faut brûler tout ça. Donc, mais dans les années 60 et 70, avec l'arrivée de la ségrégation, de stars comme Sidney Poitier ou James Earl Jones, qui était un autre modèle pour Denzel Washington, ça commence à évoluer, à changer. Et à mon époque, on était beaucoup plus prêt à accepter le public, je veux dire, de voir des stars noires à l'écran. Il y a Eddie Murphy, il y a Richard Pryor.
Louis Gossett Jr. aussi,
Louis Gossett Jr., voilà, qui a eu aussi un Oscar.
Un Oscar du meilleur second rôle.
Voilà, pour Officer and a Gentleman. Je ne connais pas le titre en français, désolé. Mais voilà, donc c'est vraiment très différent, mais c'est une réflexion de ce qui se passait aux États-Unis.
Denzel, rappelons-le, a joué Malcolm X, qui appelait à la révolution. Et révolution, bah, c'est aussi le titre qu'on va écouter, Arrested Development.
Generations of good people and cycles of poverty. It bothers me, so I ask myself, I say, are you doing as much as you can for the struggle? No. Am I doing as much as I can for the struggle? No. Then why do I cry when my people are in trouble? No. My ancestors slapped me in the face and said,
go!
Harriet Tubman told me to get on up. Marcus Garvey said to me, bro, you get on up. My brother Malcolm X need our neighbor. It ain't like we never seen blood before. Come on, let's talk revolution now. One shot him. I see tears cause now it seems that we forgot him.
Yeah.
I see years of people searching for solutions,
right.
Restitutions, excuses, no more confusion. Come on, let's talk right. Talk up, but don't talk up all night. It's gotta be action if you want satisfaction. If not for yourself, for the young ones,
the
UN, the US, we can't allow ya to tell us again and again it was not as important as getting Bosnia.
Oh.
I ain't with it, just forget it.
No.
We can't even debate if you don't understand our situation. To go get a gun now, do you? You don't like to see people running around now. Yet still you wanna live like 90210 while we scream out, yo!
Freedom!
My grandmothers are going, we are wasted.
Oh.
Your best acquired taste for something we've never tasted.
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
Et si je suis ici cet après-midi, ce n'est pas en tant que républicain ou que démocrate. Je ne suis ni maçon d'une loge ou d'une autre. Je ne suis ni protestant, ni catholique. Je ne suis ni chrétien, ni juif. Je ne suis ni baptiste, ni méthodiste. Et à vrai dire, je ne suis même pas américain. Parce que si j'étais américain, le problème qu'affronte notre peuple aujourd'hui n'existerait pas. Et je me présente devant vous aujourd'hui tel que j'étais le jour de ma naissance, un homme noir. Bien longtemps avant qu'il n'existe de républicains ou de démocrates, il y avait des noirs. Bien longtemps avant qu'il n'existe des francs-maçons, il y avait des noirs. Bien longtemps avant qu'il n'existe de juifs ou de chrétiens, il y avait un peuple noir. Et même en un temps où il n'existait pas encore d'Amérique, il y avait des Noirs. Et quand l'Amérique aura depuis longtemps disparu, il y aura encore un peuple noir. Je vais vous parler des choses telles qu'elles sont. À chaque période d'élection, on nous envoie les politiciens pour nous faire tenir tranquilles. Ceux qui les envoient, ceux qui les paient, ce sont les Blancs. Voilà ce qu'ils font chez nous. Ils envoient la drogue ici à Harlem pour nous faire tenir tranquilles. Ils envoient l'alcool ici pour nous faire tenir tranquilles. Ils envoient la prostitution ici pour nous faire tenir tranquilles. On ne pourrait pas se procurer de la drogue à Harlem sans permission des Blancs. Il n'y aurait pas de prostitution à Harlem sans la permission des Blancs. Il n'y aurait pas de maison de jeu à Harlem sans la permission des Blancs. À chaque fois, oui, chaque bouteille d'alcool qu'un noir débouche, il doit briser le cachet du monopole. Oh oui, je l'ai dit et redit, et je le dis encore, vous vous êtes fait avoir. Vous vous êtes fait escroquer. Le Blanc vous a entubé, mis dans sa poche, arnaqué, rastivoisé. Voilà ce qu'il vous fait.
Malcolm X, sorti en 1993, deuxième collaboration entre l'acteur Denzel Washington et le réalisateur Spike Lee. Après Moe's Better Blues en 1990, Denzel est doublé pour une fois par Jacques Martial et non Emmanuel Giacomi, qui est d'habitude son doubleur attitré. Marie Casabonne, quel est le film qu'il faut avoir vu de Denzel Washington, selon vous ?
Alors, il y en a vraiment beaucoup. Je citerai peut-être le premier extrait qu'on a eu en ouverture d'une émission, Philadelphia. C'est quand même un film assez intéressant, un film de Jacques Demy en 93. En fait, il joue le rôle d'un avocat qui défend un autre avocat qui a été viré de sa firme alors qu'il passait associé parce qu'il était homosexuel et qu'il avait le sida. Donc, c'est un des premiers films vraiment sur le sida et
avec
sur les personnes.
Avec Tom Hanks et Antonio Banderas.
Voilà. Et c'est un film qui est joué par cet acteur, ce personnage est joué par Tom Hanks. Et donc, en fait, c'est un film qui parle d'une double déconstruction des clichés de l'Amérique. En fait, on a évidemment les clichés sur les homosexuels et sur le sida, puisque c'est le début de l'épidémie où les gens ne connaissent pas bien et ont plein de préjugés et n'osent même pas toucher les personnes séropositives. Et une déconstruction évidemment du racisme et des clichés noirs, puisque ce personnage d'avocat qui est noir a lui-même des préjugés homophobes. Il y a pas mal de remarques homophobes. Le film est parfois un peu dur à voir, mais bon, c'est évidemment, le film n'est pas homophobe, c'est les personnages qui le sont. Et en fait, lui-même finit par s'attacher et se lier avec ce personnage et à dépasser ses propres clichés, parce qu'il y a aussi une convergence des luttes où il se rend compte que, en fait, c'est pas le même type de discrimination, mais c'est la même chose pour tous les deux. Donc c'est un film assez important. Et puis il y a cet extrait qu'on a passé au tout début du film, de cette scène au tribunal, avec un discours qui résume tout, quoi.
Jordan ?
Mais j'allais dire Malcolm X, mais parce que c'est quand même un grand film de Spike Lee. Et vraiment, le film, pour moi, je n'avais pas vu Moe's Better Blues. Et donc, Malcolm X, c'était le film où j'ai vraiment découvert Denzel Washington comme un star de cinéma. Quand j'ai entendu l'extrait, je me disais, j'avais pensé à autre chose. Et l'autre film qui je regarde régulièrement avec lui, c'est L'affaire Pelican, The Pelican Brief. Et que je trouve qui est un film qui, sur le papier, en fait, je veux dire, d'après les livres, ça pourrait pas être un grand film, mais le film est, parce que c'est des livres de John Grisham qui ont été adaptés au cinéma, ont rarement fait de bons films. Mais là, c'est un film qui est complètement élevé par les acteurs, Denzel Washington et aussi Julia Roberts. et le réalisateur Alan Pakula. Pour moi, c'est un des grands films, un grand thriller des années 90. Et on voit aussi que, parce que dans la même année, Denzel Washington va faire L'Affaire Pélican, Philadelphia, et un film de Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien, voilà. Et donc, on voit son range, comme on dit pour un acteur.
Sa palette.
Exactement. Il peut aller d'une comédie shakespearienne à un très bon polar et à un film dramatique, oscarisable. Mais pour moi, le Pelican Brief, ça reste en fait. C'est un film, je trouve que c'est pas vraiment daté. C'est un des très bons thrillers de l'époque où il n'y en avait pas beaucoup dans les années 90. Finalement, ça fait plus penser au film des années 70 parce que c'est Pakula aussi. Et on voit Washington aussi qui comme dans chaque film, qui va bouffer un peu chaque scène et que sa présence est toujours très agréable à voir.
Renaud Besbrodier?
Moi, je vais vous faire les yeux doux et tricher en dire deux, parce que j'adore Tony Scott. Donc, Denzel Washington a fait plusieurs films avec le frère de Ridley Scott, Tony Scott, des films d'action très prenants, dont un qui s'appelle Déjà Vu et qui, malheureusement, n'est pas très vu. Donc, je voulais le recommander à tous les gens qui n'ont pas aimé Tenet. Voyez-le, c'est Tenet tant mieux. Et si vous avez aimé Tenet, voyez-le, c'est Tenet tant mieux. Voilà, c'est un jeu de...
C'est pas gentil pour son fils qui joue justement dans Washington.
Mais moi, j'aime bien Tenet quand même. Mais voilà, c'est un film vraiment intéressant dans lequel... Il joue un type plutôt normal qui se trouve à aider des agents pour enquêter sur un bateau qui a explosé à l'aide d'une espèce de machine à regarder dans le temps. Et c'est un petit peu mindfuck et assez romantique, très très beau. Et justement, en parlant de romantique, je voulais parler d'un de ses premiers rôles romantiques, puisque Denzel, c'est le premier acteur noir aux États-Unis à être, à un moment de sa carrière, filmé comme un lover, filmé comme quelqu'un qui peut susciter du désir. D'ailleurs, il est le premier homme nord-américain à être élu en 96, l'homme le plus sexy du monde par People Magazine. Et donc ce film-là, dans la bascule, en fait, il y a Spike Lee qui lui fait jouer dans Pompetto Blues, mais surtout Meera Nair, qui lui, donc une réalisatrice d'origine indienne, qui est d'ailleurs, si vous suivez la politique, est la mère du candidat démocrate à la mairie de New York, qui a donc réalisé Mississippi Masala, qui est une histoire de romance entre donc, une indienne dont les parents viennent de l'Ouganda, qui était déplacée en Ouganda par les colons britanniques qui les avaient fait venir pour les chemins de fer, et qui, elle, ici, se construit une vie et rencontre, en fait, ce jeune Denzel. Et donc, c'est une vraie romance, pas comédie romantique, mais vraie romance avec un Denzel jeune, fougueux, et montré vraiment comme un personnage désirable. Et c'était un vrai tournant, et c'est un film qui, malheureusement, n'a pas marché du tout quand il est sorti. Je l'ai redécouvert là, récemment, et c'est un vrai plaisir à découvrir. Donc, voilà.
Et personne n'a cité USS Alabama.
Bah, j'ai hésité, parce qu'on en a parlé juste avant. Mais
il
ne
faut pas citer
Tony
tous les Tony Scott, ils ont fait 5 films ensemble, il faut les voir les 5.
Mais quand même, c'était l'affrontement Gene Hackman, Denzel Washington, et moi j'ai une pensée émue pour tous les seconds rôles qui étaient contents d'être sur ce film et que personne n'a vu, parce qu'il y avait eux deux.
D'ailleurs, un film qui a créé, de ce que j'ai cru lire, un conflit entre Tarantino et Denzel Washington, puisque Tarantino a été script doctor sur le film, et... un des passages du film qui est un des seuls justement à ne pas être aller jouer en fait sur une espèce de carte raciale aurait été une métaphore amenée par Tarantino et ça n'aurait pas plu du tout à Denzel qui lui en aurait voulu pendant très longtemps mais il aurait enterré la hache de guerre plus tard lorsque sa fille, une de ses filles a joué dans un de ses films à Tarantino. Mais c'est parce que des gens s'interrogeaient en fait pourquoi est-ce qu'un acteur comme Denzel n'aurait jamais été avec un cinéaste qui flirte un peu avec la blaxploitation comme Tarantino, et apparemment la raison, voilà, c'était à cause de ça.
USS Alabama, il s'en est passé des choses dans ce sous-marin. On est ensemble pour évoquer l'immense carrière de Denzel Washington, mais pour le moment, on écoute Isha qui interprète Caesar's Palace.
Et on va tous mourir. Le vieux, le pauvre, le riche, le jeune. Je t'envoie des sensations, que des mots qui visent le cœur. Souvent les gens donnent des conseils, souvent les gens disent des choses. Faut pas que tu nous écoutes, on a les dents qui se déchaussent. Je suis en train de mûrir spirituellement, je sens. Mais ça me coupe du monde et je manque cruellement de temps. Quand t'es perdu dans l'espace, ça fait du bien de lire l'heure. Addiction sur mes côtes comme un chien renifleur. Un univers malsain, je sais que c'est un univers malsain. À l'hôpital, la morgue, elle se trouve toujours vers moins un. Maintenant que le jeune est mort, vite d'amant qui fait le moins de malin. Souvent nos vies s'arrêtent devant les portes du César Palace. Un univers malsain, je sais que c'est un univers malsain. À l'hôpital, l'hôpital, la morgue, elle se trouve toujours vers le moins un. Maintenant que le jeune est mort, évidemment qui fait le moins le malin. Souvent nos vies s'arrêtent devant les portes de César. Je suis le fils de l'anxiété, le petit frère de l'angoisse. Né sur un tas de poussière, putain, au milieu des chats de gouttière. Avant je t'aurais démarré si tu m'avais dit que j'étais pas une vraie KRA. J'avais besoin de prouver que j'étais une vraie KRA. J'ai mis des coups de couteau, j'ai pris des coups de couteau. J'étais en train de couler, mais les trésors se trouvent sous l'eau. Son poule a l'air quatre fois plus gros quand il se trouve sous l'eau. Je suis sérieux quand c'est pour le boulot, quand la gestion appuie sur le bouton. Un univers malsain, je sais que c'est un univers malsain. À l'hôpital, la morgue, elle se trouve toujours vers le moins un. Maintenant que le jeune est mort, évidemment qui fait le moins de malin. Souvent nos vies s'arrêtent devant les portes du César Palace. Un univers malsain, je sais que c'est un univers malsain. À l'hôpital, la morgue, elle se trouve toujours vers le moins un. Maintenant que le jeune est mort, évidemment qui fait le moins de malin. Souvent nos vies s'arrêtent devant les portes du César Palace.
Blockbuster.
Listen.
Frédéric Sigrist.
You're in a privileged position to learn a thing or two. Keep your mouth shut and your eyes open.
Sur France Inter.
Oh, you motherfuckers. Okay.
Vous êtes de belles enflures, hein?
All right. I'm putting cases on all of you, bitch.
Je vais enquêter sur chacun de vous, tas de pédés.
You think you can do this shit?
Vous croyez pouvoir me faire... Jake!
You think you can do this to me?
Vous croyez pouvoir me faire ça à moi?
You motherfuckers will be playing.
On vous enverra faire une partie de basketball dans une prison de merde que j'en aurais fini avec vous.
Shoot program, nigga.
On trouve 23 heures par jour.
23 hour lockdown.
Vous deviendrez cireur de chaussures. C'est moi le patron, putain de merde.
You'll never see the light of day.
Vous ne verrez jamais la lumière du jour. Vous savez à qui vous avez affaire? C'est moi la police. Et je fais la loi ici. Vous vous faites qui habiter?
Yeah, that's right. You better walk away.
Vous faites bien rentrer chez vous. Allez, cassez-vous, parce que je vais le buter, je vais le carboniser, ce connard.
King Kong
est un ringard à côté de moi.
Ah oui, d'accord.
Fais chier. Rien à foutre. Je vais gagner quand même.
I'm winning.
J'ai gagné.
I'm winning any motherfucking way.
J'ai gagné à ma façon, mais je gagne toujours.
Shit, you can shoot me.
On peut tirer sur moi.
You can't kill me.
Mais on peut pas me tuer. Putain.
Oh, what a
bitch. Oh, quelle journée. Quelle foutue journée de merde.
King Kong and Got Shit on Me, l'une des répliques les plus célèbres de Denzel Washington dans Training Day d'Antoine Fuqua, sorti en 2001. La voix française de Denzel est celle d'Emmanuel Jacomy. Jordan, je vous voyais sourire. C'est sûr que quand on est habitué à l'américain, à un New-Yorkais, et qu'on entend les traductions en français, ça peut faire bizarre.
Oui, mais c'est aussi ce que vous avez dit tout à l'heure sur la voix de Denzel qui est tellement particulier. Tout de suite, on le reconnaît. Donc, de l'entendre doublé. Et après, oui, je trouve le gros mot doublé toujours très drôle pour un étranger. Quoi.
Mais il faut dire que c'est vrai que, pour le coup, des monologues comme ça, du quartier en version originale, c'est très difficilement adaptable, Renaud.
Complètement difficile à adapter, et en plus pour un acteur qui en a énormément, on le disait tout à l'heure, c'est un acteur qui considère en partie le fait de jouer la comédie comme une manière de prêcher. On a dit que son père donc était pasteur, et lui effectivement a été ordained récemment, je sais pas comment dire ça,
ordonné, tout simplement,
pour effectivement à terme peut-être devenir pasteur également, et il a une intention de transmettre transmettre des messages. D'ailleurs, plus il avance dans, dans le 21e siècle, et plus il va jouer des rôles de mentor, que ce soit des professeurs, que ce soit des avocats. Voilà, il est là pour amener la bonne parole et pour
Il a même fait des films qui flirtent avec une idée de propagande religieuse, mais que j'adore, hein, mais The Book of Eli,
Il cite... Sur lequel il est producteur, d'ailleurs, avec sa boîte Mandeline Entertainment.
Il est à fond là-dedans. Hein.
Oui, complètement. Mais je trouve ça plus intéressant, justement, dans des rôles où c'est un peu plus subtil, comme par exemple deux films qu'il a réalisés, Antoine Fischer en 2002 et The Great Debaters en 2007, où il joue dans un cas un psy pour un soldat qui a des excès de colère, et c'est quelque chose que Denzel a lui-même révélé, qu'il avait beaucoup de rage en lui, qu'il avait dû apprendre à contenir, et dans The Great Debaters, où il joue donc le professeur d'un groupe en fait d'élèves noirs qui font des débats et qui sont dans le sud sous les lois Jim Crow. Et voilà, donc il se place ici. Ah oui, d'ailleurs aussi, il joue un personnage qui est communiste et qui est accusé d'être communiste. Et franchement, un film où Denzel est communiste, si c'est pas quelque chose qui peut rassembler, moi je... voilà, c'est quelqu'un qui aime la parole, et c'est pour ça que c'est bizarre de l'entendre dans une autre voix.
Marie Casabonne, comme on l'a dit, Denzel Washington est très croyant, il est pratiquant. Est-ce qu'à l'instar de Will Smith, qui a fait beaucoup de choix aussi liés à ses convictions religieuses, est-ce que ça se ressent dans la manière qu'il a de construire sa carrière actuellement ?
Je pense que ça se ressent pas mal, parce qu'on lui a pas mal reproché, notamment en début de carrière, d'avoir un peu, déjà d'intervenir dans les scripts, et d'avoir notamment effacé des liaisons ou des histoires d'amour avec des personnages féminins qui étaient blancs. Notamment dans l'affaire Pélican, puisqu'a priori elle est dans le roman. Et lui, c'est quelque chose, bon, il s'en défend, mais dans d'autres interviews, il dit vraiment qu'il ne veut pas faire des choses qui embarrasseraient sa famille, que quand il fait des films, il pense à ses enfants. Je ne sais plus dans quel film, il y a une anecdote où il y a une scène de sexe, et il est tellement gêné, il est tellement mal, alors que c'est un super acteur. Mais pour cette scène-là, il est tellement pas bien qu'ils l'ont coupé au montage parce qu'ils se sont dit, on ne peut pas garder ça, c'est catastrophique. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est, comme il en a dit, il est profondément religieux, c'est quelqu'un qui va à la messe, qui lit la Bible quotidiennement, et du coup je pense qu'en tout cas à un certain moment il n'était pas du tout à l'aise avec ça, et donc ça a dicté un peu certains choix de réécriture des scénarios, et aussi par exemple même dans Training Day, c'est lui qui a fait changer la fin du scénario pour que son personnage meure, parce que bon, Training Day, on l'a pas dit, mais c'est un tournant dans sa carrière, en fait c'est le premier rôle où il incarne un vrai méchant, et où il montre une nouvelle palette, et du coup ça va encore élargir son jeu, et il va avoir plein d'autres rôles après qui vont le sortir de soit de ses figures historiques, soit en tout cas de ses figures morales qui se rachètent. Là, il joue un vrai pur méchant, un flic pourri, mais il se fait quand même, je vais spoiler le film, bouchez-vous les oreilles, mais voilà, il se fait punir à la fin, et c'est lui qui a voulu cette fin-là, donc je pense qu'il a quand même, il s'est dit, même si je joue un gros méchant, il faut que ce personnage soit puni à la fin, quoi.
Mais c'est assez cocasse de le voir expurger ses scénarios de scènes sentimentales avec Julia Roberts, alors que dans Man on Fire, Equalizer... il dessoude tellement de personnes, et il y a ce paradoxe qui est permanent aux États-Unis entre le sexe non,
mais oui,
par contre oui, gigouiller oui,
c'est-à-dire un film peut avoir il peut y avoir 10 000 personnes tuées dans un film, et ça peut être quand même classé pour l'âge de 13 ans, alors que si on voit des seins par exemple nus, ça va être directement 16 ans, et donc c'est juste, mais ça c'est la culture américaine, je voulais dire un peu protestante, qui vient de et d'ailleurs qui est aussi la religion de Denzel Washington, qui est évangéliste pentecostal, pentecôte,
oui.
Je crois, voilà.
Pentecôtiste,
voilà. Donc c'est quand même, je pense que la religion, peut-être aujourd'hui, parce qu'on a l'impression qu'il devient de plus en plus religieux, croyant, qu'on peut peut-être revoir toute sa carrière à travers cette croyance. Moi pourquoi il est unique, pour moi aussi, c'est ce côté de la foi dans ces personnages qu'on y joue. C'est-à-dire qu'on n'a jamais l'impression qu'il est en train de faire à moitié. Mais il n'est pas non plus dans un jeu à l'Actor Studio où, en fait, il se transforme psychologiquement. C'est quelque chose d'autre qui se voit à l'écran.
Oui,
et que pour moi, c'est peut-être lié à cette idée de la foi. D'ailleurs, il a dit dans plusieurs interviews que... il est devenu acteur parce que quelqu'un avait vu jouer dans un petit spectacle de summer camp, mais parce que aussi une femme avait dit, une femme dans le, qui était dans le salon de coiffeur de sa mère, a donné une prophétie à Denzel quand il avait 20 ans. Elle dit, vous allez aller partout dans le monde et vous allez en gros parler aux gens. Et c'était avant qu'il fasse n'importe quel spectacle ou film. Et donc, je pense que lui a toujours vu sa carrière comme quelque chose de presque biblique. Et peut-être ça explique aussi que quand il joue n'importe quel rôle, il y a beaucoup de croyances et nous, le spectateur, on y croit aussi.
Renaud ?
Et je voulais revenir sur cette histoire de baiser coupé, etc. Parce que je trouve que c'est une des histoires les plus intéressantes et fascinantes de sa carrière, pour tout ce que vous avez dit, mais aussi parce que une des raisons qui a fait qu'il a lui-même insisté pour que ce soit coupé, c'est parce que les premières réponses en projection test ont été très négatives du fait que c'était un blanc, enfin une blanche et un noir. Et il a été très vite conscient de cela, et au contraire a voulu mettre en avant des relations noires dans ses films, ou en tout cas avec des personnes qui ne sont pas des blancs ou des blanches, et plus tard en tant que réalisateur, en tant que producteur, si lui effectivement va se mettre en retrait, il va aussi encourager des personnages plus jeunes, pareil, des personnages noirs, d'hommes et de femmes, à explorer ces relations-là. Mais effectivement, lui, en se mettant en retrait, en toujours cette posture de mentor, de bon, moi, maintenant je regarde de loin et je fais encore je prêche la bonne parole.
Oui, donc il est là pour accompagner changement, pas pour l'incarner. C'est-à-dire que c'est vraiment un médiateur.
Oui, voilà, c'est ça, un médiateur, exactement.
On approche de la quatrième partie de cette émission, mais avant cela, on écoute Look at God par Raven. Hey, from the windows to the wall, county checks in the EBT car. Could be worse if I woke up, y'all. Could be worse if I went top dog. Hey, look at God, look at God. Every second of my life, I'm a ball. I'm a ball. Look at God, look at God. Could be worse if I woke up, y'all. Hey, check, I been got bread, made it to a cart with them left field, Westfield, Bluefields, Fox Hills. Laugh now, cry later, cause I'm top tier. Loud mouth and all in traffic, he got parked steel. Check his tip, I be sending out them hot waves, I'm top grade. I ain't scared to die, guess who got grades? Do not play, baby, I'm Muhammad in my block phase. Bleed a block, block a bitch, pull up with them box sprays. Box sprays. Hopping out of Benzes, I'm trending, the city is ascending. My blicky in attendance, ay, ay, cause I know what's coming like the Simpsons. Ay, ay, got put on a T for all that Lipton. Seven bad friends in the whole group, eight. If they from LA County, bet they all roommates. BBL Hill, she just got a new shape. Fuck two mixed girls, I made a new race. From the windows to the wall, county checks in the EBT car. Could be worse if I woke up, y'all. Could be worse if I went top dog. Ay, ay, look at God, look at God. Every second of my life, I'm a ball. Look at God, look at God. Could be worse if I woke up, y'all. Keep my mouth full of gold and I'm running with a filly as cadettos from the pig feet. World Series, hit or miss. Niggas don't like Donald Trump, but they want a politic. Break me off some money, young. Doctor, see a chef's kiss. Hey, I fucked every bitty on my friends list. I fucked every bitty I was friends with. A weirdo, somebody I'll shake hands with. It's a spectrum full of niggas I make bands with. Try whopping it ghosted like a honey house. We burn it down, burn it down, burn it down. Probably tattoos for the whole town. White girl riding shotgun. They love in and out. Barbecue grill in my mud shot. House party go up in that living room with gunshots. Wi-Fi check glove box. Stand by me, need sunblock. Pump fake, get gumdrop. Hoes love me like young. From the windows to the wall, county checks in the EBT car. Could be worse if I woke up, y'all. Could be worse if I went top dog. Hey, look at God, look at God. Every second of my life, I'm a ball. Look at God, look at God. Could be worse if I woke up, y'all.
If Russ ain't hot, then it must be a blizzard in this bitch. Getting out of hand, caught a lizard in this bitch. It's magic, poof, I'm a wizard in this bitch. I'm cold enough to make her shiver in this bitch. I'm hustling, I make cash every day. I'm on a run, they pass every play. Big black truck, I see my driver every day. I wash the shore, I'm fresh about the bay. I never sold yay, I never did coke. Spent 800 on this North Face coat. I spent $60 on these new Croc sneakers. I made it all back off of features. Preachers can't get a word like Russ. I write so fast, you would think I'm in a rush. Kick dust, you wasn't around when I was in a rut. When I was on my ass, you wasn't trying to get me butt. Hush, if you ain't never did it, keep your mouth closed. I was on the north side, rocking South Pole. Had to ask to run the heater when the house cold. I embrace the silver lining, now my mouth gold. Jeez, I wake up and get paid. I've been on 10 like my age in fifth grade. You ever made 60K in 6 days? Probably not.
Wow. Nigga, what?
Frédéric Sigrist.
So far, so good.
Blockbuster. Sur France Inter.
Strong jaw. Et une solide mâchoire.
Good arms.
Des bras puissants.
Better smell.
Une meilleure odeur.
You will do well.
Très prometteur.
It is an art.
C'est tout un art.
Choosing gladiators.
De choisir les gladiateurs.
Some choose entertainers.
Certains privilégient le spectacle.
Some choose brute force.
D'autres la force brute. Quant à moi, c'est la rage.
Crowd loves blood, and they love those who love blood as much as
God. Car la foule aime le sang, et elle aime ceux qui aiment le sang autant qu'elle. Et toi, mon ami, la rage.
What was that of you like?
Transpire de tout ton être.
Like milk.
Comme le lait coule.
From a horse tit.
Du sein d'une putain.
You will be quite the fighter.
Tu seras un sacré combattant.
Not for you.
Pas pour toi.
You're right, you do not fight.
Tu as raison, ce n'est pas pour moi que tu combats.
I put you in the ring, you fight.
Je te mets dans l'arène, tu combats ou tu meurs, le choix t'appartient. Mais quelle tête pourrais-je t'offrir qui saurait apaiser cette
fury.
Fureur.
The entire Roman army.
Toute l'armée romaine.
Too much.
Gourmand.
General will do.
Le général fera l'affaire.
General.
Le général.
General Acacius.
Le général Acacius.
Mm. Use your rage in my service.
Mets ta rage à mon service, et tu auras sa tête sous la lame de ton glaive.
Serve me, and I will serve you. Deny me.
Serre mes intérêts, et je te servirai. Renie-moi.
And you will die.
Et là, tu mourras.
Denzel Washington, la seule chose à sauver de Gladiator de Ridley Scott, mais en même temps, quelle attraction, sorti en 2024 avec la voix française d'Emmanuel Jacomi. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais moi, j'adore depuis des années regarder des interviews, des commentaires audio des films de Denzel Washington. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est de voir le nombre de jeunes comédiens à Hollywood qui lui doivent mais une énorme partie de leur carrière. Alors, il y a déjà Chadwick Boseman qui a quitté l'acteur de Black Panther, qui a carrément été financé à son insu par Denzel Washington. Marie ?
Ça, c'est intéressant parce que Denzel Washington, c'est quelqu'un qui donne beaucoup pour des fondations, c'est un philanthrope, quoi, et il finançait notamment les études de jeunes afro-américains. Et c'était lors d'une, je ne sais plus quelle remise de prix, Chadwick Boseman était récompensé et il a dit, voilà, il ne le sait pas, mais Denzel Washington, qui est dans la salle, a payé pour mes études. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Et la scène, je pense qu'elle est trouvable sur YouTube, c'est assez émouvant parce qu'on voit tout le monde qui applaudit, tout le monde qui est ému et Denzel Washington qui regarde droit devant lui avec sa petite larme qui ne sort pas de son œil mais qui est assez ému. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est un philanthrope déjà, qui a donné de l'argent. Et puis, au-delà de ça, c'est une image aussi. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la représentation, on l'a dit, mais le fait d'avoir refusé aussi certains rôles, parce qu'on a dit qu'il a joué Malcolm X, mais il a refusé juste après d'incarner Martin Luther King pour, pas justement, pour ne pas s'enfermer dans ce type de rôle et pour pouvoir être plus large. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça lui a donné accès à des rôles, entre guillemets, normaux, c'est-à-dire où la couleur de peau du personnage n'est pas importante, où ça lui a donné aussi de jouer avec Keanu Reeves dans le film de Kenneth Branagh dont on parlait tout à l'heure, Beaucoup de bruit pour rien, de jouer avec Julia Roberts dans l'affaire Pélican, de normaliser aussi le fait qu'un acteur noir se retrouve au milieu d'acteurs blancs et comme lui avait suivi un peu le chemin de Sidney Poitier avant lui, de James Earl Jones, de même Morgan Freeman, lui a été un modèle pour les générations suivantes et je pense qu'il a fait beaucoup en termes de représentation pour les plus jeunes acteurs et même au final, on parlait tout à l'heure de son fils qui est acteur dans Black Klansman, dans Malcolm et Marie, dans pas mal de choses, c'est quelqu'un qui a ouvert la voie à toute une nouvelle toute une nouvelle génération d'acteurs.
Jordan ?
Mais en faisant un peu de recherche pour cette émission, je suis tombé sur un discours que Denzel Washington a fait il y a quelques années dans une fac. Ce qu'on fait souvent, on a envie de célébrités ou de hommes politiques ou de femmes politiques pour parler aux étudiants qui sont en dernière année, qui sont en train de faire leur graduation. Et le discours de Washington est incroyable. C'est vraiment un discours d'une inspiration qu'on entend rarement. On dirait le grand discours d'Obama en 2008 qu'il avait lancé. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il parle beaucoup beaucoup d'échecs. Il n'arrête pas de parler des échecs, vous allez échouer. Il n'arrête pas de dire ça. Et il dit, mais ce n'est pas grave, en fait, il faut juste...
Qu'on apprend.
Mais oui, et surtout, ce qu'il dit, c'est assez beau. Il dit, parce qu'en anglais, on dit... on va tomber par derrière, fall backwards. Il dit, non, il faut apprendre comment fall forward, tomber en avant. Et il dit que sa vie, et c'est vrai que quand on regarde sa biographie jusqu'à l'âge de 20 ans, quand il commence à jouer, sa vie est assez compliquée. Il était dans un quartier assez difficile, à côté du Bronx. Des amis criminels étaient renvoyés dans une école, un boarding school, parce que c'était un cancre, en fait. Il était mauvais élève. Et là, il a enfin trouvé son chemin à 20 ans, ce qui est peut-être un peu tard. Donc, il parlait aux élèves de 20 ans, 21 ans, en leur disant « c'est pas grave, mais il faut oser et il faut échouer ». C'est très beau, moi, c'est ce que on retient de lui, c'est ce discours qui, dans ses films, ou peut-être dans la vraie vie, qui vont continuer après lui, quoi. Mmh.
Renaud Besbroudy.
Et alors, ce que je trouve super aussi, c'est comment il arrive à allier en fait les anciens et les nouveaux, notamment dans des productions récentes. Donc, il a produit et réalisé une partie des adaptations des pièces de August Wilson, qui est un dramaturge nord-américain très important. Il a joué Fences au théâtre et ensuite il a lui-même adapté en jouant le rôle principal au cinéma. Un film qui souffre justement de, comme beaucoup d'adaptations théâtrales, de la comparaison avec la scène, mais qui est fascinant pour le rôle qu'il joue Washington, justement. Avec un personnage qui parle beaucoup, mais qui, pour une fois, parle beaucoup pour cacher que c'est pas un type bien. Et derrière ça, en fait, il a continué à produire ces pièces-là. Et justement, la suivante, c'était donc Marnie's Black Bottom, qui est le dernier rôle au cinéma de Chadwick Boseman, mm-hmm. pour lequel il avait été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur. Et pareil, effectivement, ensuite, le film suivant a été réalisé par son fils. Alors, pas par John David, par l'autre, dont j'ai oublié le prénom.
Malcolm,
merci. Oui, Malcolm Washington. Et donc effectivement, c'est cette manière en fait de prendre la nouvelle génération, de leur dire voilà ce que les anciens ont fait, vous allez vous en emparer et vous allez continuer le chemin derrière. Je trouve ça vraiment beau et le fait que d'un côté effectivement il est dépassé cette condition d'être un acteur qui parle de l'histoire noire américaine en faisant des offres plus commerciales et en même temps à côté de ça. Peut-être même dans une branche de son philanthropisme, continuer de produire des œuvres qui mettent en avant ces histoires et qui continuent de parler de point de vue politique à un moment où c'est très nécessaire mm-hmm. aux États-Unis comme ailleurs.
Et comme je l'ai dit, Austin Butler, qui a joué Elvis, a remercié aussi mm-hmm. Denzel Washington. Glenn Powell,
qui joue dans The Great Debaters, il a une toute petite scène dans le film de 2007 réalisé par Denzel.
Donc en fait, ça fait quand même un certain nombre de personnes qui doivent énormément à Denzel Washington.
Énormément, effectivement, de la jeune génération, effectivement, comme vous le dites, et à la fois des acteurs blancs, des acteurs noirs, tout le monde, quoi. En fait, on aime tous Denzel.
Eh bien, on va terminer cette émission comme on l'a commencé. Denzel, c'est le GOAT. Voilà, c'est le boss. Merci beaucoup, Renaud Besbroudier. Merci, Jordan Mincer. Merci, Marie Cazabonne, d'avoir évoqué ce grand acteur qui est Denzel Washington. Et moi, j'ai une petite faiblesse pour Le Témoin du Mal. Avec Time is on my side, avec ce tueur en série qui passe d'un corps à l'autre en chantant, voilà, c'est mon côté un peu série B, tout ça, j'aime bien ce film. C'est la fin de cette émission, une émission réalisée par Étienne Bertin, une émission préparée par Lisiane Larbanier et Benjamin Ducy, avec l'aide de notre stagiaire Amazir Madain Guest, et aujourd'hui à la technique, il y avait Benjamin Wagon, et au mixage, Rémi Sistiaga. Comme toujours, pour les messages, il y a le répondeur, 01 56 40 30 20, et si vous voulez me parler directement, bah, il y a Instagram, @fredsigrist. Et demain, on se retrouve, demain, on se retrouve pour parler de la terrible dystopie de Margaret Atwood et de son adaptation télévisée, La Servante Écarlate. Alors, c'était de l'ironie, bien évidemment.
C'était il y a 10 ans, donc. Je faisais le plein à une station-service et il y avait un mec à la pompe d'à côté. C'était Denzel Washington.
Attends, c'était vraiment Denzel? Non, j'y crois pas une seconde.
Mais tu...
Mm-mm.
Ah ouais, bah tu vas voir, j'ai fait un selfie avec lui. Je l'ai mis dans un dossier caché. Denzel et Michel.
Non, ma puce, c'est pas Denzel.